France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Avancer en faisant du surplace, voilà une drôle d'idée qui a connu pas mal de succès. Vous pensez tout de suite, et vous avez raison, aux tapis de course que l'on trouve dans les salles de sport contemporaines, mais le livre, au programme de notre Book Club aujourd'hui, remonte l'escalator à contre-courant pour proposer une étude historique et fragmentaire des chaînes sans fin. Yves Pagès, auteur et éditeur, interroge ce après quoi la technocratie dominante nous fait courir dans un livre aussi érudit que joyeusement vagabond. Il est notre invité ce jour pour en parler. Vers 15h50, nous retrouvons Lou Quevauvillé, qui, comme chaque mercredi, se poste au carrefour du numérique et du littéraire. Aujourd'hui, on apprend les béabas de la traduction et plus encore dans un jeu vidéo. Et apprendre en jouant, on ne connaît rien de mieux. En fin d'émission, ce sont vos trouvailles de lecture qui nourrissent notre grand jeu des pages musicales. C'est donc grâce à vous qu'on se quittera en chanson. Vous avez le programme On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bienvenue à vous, surtout Yves Pagès.
Merci, bonjour.
Bonjour, votre livre Les chaînes sans fin, une histoire illustrée du tapis roulant apparu... du tapis roulant. J'ai fait ça toute la matinée, je ne sais pas pourquoi. Apparu aux éditions de la Découverte, dans la collection Zone. Nous en reparlerons tout à l'heure. On connaît évidemment vos propres livres. On vous connaît aussi parce que vous animez la maison d'édition verticale avec Jeanne Guyon. On vous sait donc absolument lecteur et ça tombe bien, Yves Pagès, parce qu'ici tout commence par un questionnaire de lecture pour faire le portrait de nos invités en tant qu'ils sont des lectrices et des lecteurs. Où et quand avez-vous appris à lire ?
J'ai appris à lire chez ma grand-mère, institutrice, en écoutant mon frère qui avait 3 ans de plus, lire, écrire, compter. Et du coup, quand je suis arrivé en CP, l'institutrice rue Saint-Martin a dit « Ah ben non, il sait déjà lire et écrire ». Et donc du coup...
Ah ben non quoi ? Ah ben non, circuler, vous n'êtes pas...
Oui, elle voulait plus de moi. Et c'est un drame fondateur, parce qu'en fait, ensuite, il y a eu des conciliabules entre institutrices, et du coup, j'ai sauté une classe et je me suis retrouvé en CE1. Mmh. Et c'était panique à bord total, parce que, en fait, j'écrivais encore à la plume à cette époque-là, dans un encrier, pourtant, je sais pas, ça paraît toujours un peu bizarre. Je faisais des pâtés partout, j'étais en retard, je me levais sur la table en hurlant, en disant « Non, redites la phrase », etc.
Vous savez lire, mais il vous manquait une petite année.
J'ai zéro en dictée toute ma vie. Ah. Voilà. Donc, dysorthographie totale qui m'a joué de sale tour. Et avec cette langue qui, hélas, n'évolue pas. Et avec toujours ces doubles consonnes insupportables, ces exceptions permanentes, etc. Vivement, une énorme révolution de l'orthographe.
Mais ça ne vous a pas du tout éloigné des lettres, ni découragé, Yves Pagès? Ou alors ça vient vraiment beaucoup plus tard?
Non, ça m'a pas découragé, mais enfin, disons qu'en plus, comme je confondais en écrivant, je savais pas écrire en attaché, j'y arrivais pas, je confondais les A et les O, donc j'ai assez souffert de ça, ça m'a pas du tout empêché par ailleurs d'aimer lire, mais par contre, ça m'a handicapé pendant toute ma scolarité, et puis comme il y a cette espèce de manie franco-française de faire des dictées tout le temps, et de juger les gens avec condescendance sur leur qualité ou non en dictée, voilà.
Donc, est-ce que vous avez été un enfant lecteur ?
Enfant lecteur, oui, sûrement. Je me rappelle pas du tout, en fait, moi, de mon enfance précisément à ce sujet. Mais je lisais Zig et Puce chez ma grand-mère. Donc ça, c'était chouette. Zig et Puce, c'était une bande dessinée un peu antérieure à Hergé et Tintin. Tintin a un peu copié des trucs d'ailleurs dessus. Et il y avait un pingouin et deux petits personnages, Zig et Puce, qui se baladaient en Amérique, partout, etc. C'était vraiment Tintin. J'ai pas eu une grande passion pour Oui-Oui. Je le trouvais vraiment d'une fadeur un peu conventionnelle. Mais je me suis... Voilà, ce qui m'a plu, c'était vraiment Alexandre Dumas. Donc j'ai un souvenir vraiment... merveilleux de César Balsamo, qui est pas son œuvre, qui était un alchimiste. Alors ça m'avait complètement fasciné. Ensuite, j'ai descendu une marche, je suis allé vers les Pardaillans de Zévaco.
Alors ça, vous dites descendre une marche, mais c'est quand ?
Mais j'en ai aucune idée. Moi, j'ai pas de repère, moi.
Ok.
En fait.
Ça peut
pas
être
de
aussi
repère.
Bien.
Je sais, le seul chose, c'est que mon frère était le grand lecteur de la famille.
Okay.
Mon frère, lui, il avait lu tout Jules Verne. Moi, j'en avais lu un ou deux. Je me rappelle d'un où il y avait une île où il y a des enfants, tout ça. Mais Jules Verne, c'était trop scientifique pour moi. Et puis, je crois qu'assez vite, en fait, je me suis mis à aimer un peu la poésie, quand même. plutôt la poésie au départ. Moi, le roman, ça m'a pas passionné tant que ça. Donc la poésie.
Vous êtes allé vers qui ?
Oh bah je suis allé vers Apollinaire. Hein. Apollinaire, c'est la simplicité étincelante, mais aussi Mallarmé, l'opacité sublime. Moi, voilà, c'est un peu entre les deux. Et sinon, je me souviens quand même d'un livre de chevet qui devait être quand même au milieu de mon adolescence. C'était La mort viendra et alors à tes yeux. Ça, c'était une traduction en fait, mais le titre du volume m'avait de Pavès et le titre du volume m'avait tellement plu. Voilà. Et donc moi, j'essayais de shipper. Il y avait beaucoup de bouquins chez moi.
Mais j'allais dire ça. Qui vous mettez Pavès, Apollinaire, Mallarmé dans les mains.
Dès que mon père naît dans une ferme, mais l'ascenseur social est dans Pupille de la Nation, hop, tout d'un coup, il y avait une bibliothèque folle
chez vous,
chez mes parents, plus les livres de ma mère, etc. Et donc, je piquais des livres. En fait, mon père me disait, ça serait bien que tu lises Auguste Comte. Je dis, non, Auguste Comte, j'ai ouvert, j'ai trouvé ça épouvantable. Enfin, il voulait
me faire la culture scientifique. Mais à quel âge il vous disait ça ?
À 14 ans.
Ah ouais.
Et en fait, moi, j'allais piquer des bouquins dans la bibliothèque. Donc, je me rappelle qu'en tout cas, à mon chevet, vers 15 ans,
il y avait
de la poésie, Ainsi parlait Zarathoustra. Mais moi, je lisais ça, je comprenais pas du tout. Je me disais, tiens, c'est marrant, comme j'ai pas eu de culture religieuse. C'est une religion qui a pas dû marcher, le nietzschéisme, mais c'est vachement bien. Des paraboles incroyables, des animaux, des machins, je trouvais ça génial.
Bien vu en même temps.
Il y avait Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet, qui était quelque chose qui me faisait assez peur et qui m'attirait en même temps. Voilà, cette espèce de personne qui était dans une autre type de chambre, c'est-à-dire une cellule de prison, et qui, en regardant les trucs qu'il accrochait avec de la mie de pain, tout d'un coup, il se mettait à délirer dans des choses qui... C'était pas forcément des flashbacks, c'était une sorte de façon de réaliser des rêves un peu oniriques ou masturbatoires. Et ça, ça m'a fasciné beaucoup. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Enfin, il y avait des choses comme ça qui étaient pas de mon âge, en gros. Hein, évidemment, Lawrence avec des histoires d'adultère et d'amour passionné, etc. Ça m'a plu aussi. Ça, je le lisais un peu sous
les
draps. Voilà. Et
qu'est-ce que vous lisez lorsque vous sortez de l'adolescence ?
Ah, quand je sors de l'adolescence, il y a un choc. Il y a vraiment un choc. Dont ça, je m'en souviens parce qu'on m'a obligé à faire une terminale C. S, on dirait maintenant, enfin, scientifique. Et moi, j'étais pas... Mon frère était matheux, il est devenu probabiliste, mais moi, pas du tout. Et donc, toute la terminale C, j'ai révisé, j'ai bachoté à ma façon, c'est-à-dire en lisant des bouquins et en ne foutant absolument rien pour réviser mon bac. Et donc là, j'ai découvert Le bruit et la fureur de Faulkner. Ça, pour moi, c'est le grand choc. C'est-à-dire qu'on entre dans le livre et on est dans la peau de Benji, je crois qu'il s'appelait, un idiot.
On comprend rien.
Et on ne comprend rien. Et en plus, il joue au baseball ou au cricket, je sais plus. Enfin, au baseball plus probablement. Et comme je n'ai toujours pas compris les règles de ce jeu, c'est-à-dire que c'est le choc, c'est l'altérité absolue.
Ah oui.
Rentrer dans la tête de quelqu'un qui a une espèce de sensibilité insensée au monde et qui n'en comprend pas le mode d'emploi. Donc là, il y a un choc qui est ah, mais ça peut servir à ça, la littérature. À rentrer dans la tête de l'autrui absolu, et cet idiot, évidemment, qui est une figure, non seulement littéraire, mais qui est aussi une figure très, 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 très émouvante. Voilà. Ça m'a bouleversé, mais même si j'y comprenais à moitié, à tâtons, ensuite j'ai lu Tandis que j'agonise, etc. Donc Faulkner, et puis ensuite je me suis lancé dans Dostoïevski. Où il y a d'autres sortes d'idiots. Et voilà, donc là, c'était l'entrée en grande littérature contre l'idée de bachoter mon bac. Voilà.
Et donc, oui, et presque contre aussi, c'est marrant, parce que contre une idée de la très grande rationalité, des mathématiques, de la démonstration, il y a quelque chose, chez Faulkner en tout cas, qui laisse entrevoir que le monde est chaotique et compliqué, et que la langue peut le rendre absolument. Vu que le temps passe vite à vous écouter parler lecture, si on fait un grand bond et qu'on va, je sais pas, Yves Pagès, au lecteur que vous seriez devenu, si vous deviez parler de vous en tant que lecteur aujourd'hui, vous diriez quoi ?
En tant que lecteur aujourd'hui, je dirais, comme je travaille dans une maison d'édition, donc je passe beaucoup de temps à lire parfois plusieurs versions d'un même manuscrit, en fiction française contemporaine, la fiction la plus débridée, borderline, étrange, etc. Hein, mais Moi, ça fait que quand je rentre chez moi, très souvent, j'ai envie de lire soit de la littérature étrangère, pour ouvrir des portes sur un vrai ailleurs, soit de la non-fiction, des essais, voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est ça qui m'aère la tête, c'est plutôt de lire des essais qui, pour certains, c'est mes livres de plage, moi, c'est de lire ce que c'est que la violence hitlérienne, tout ça. Alors tout à coup, oh là là, mais tu vas pas emmener ça sur la plage, ben si, moi ça me détend beaucoup plus qu'un feel good,
que de corriger.
Une feel good romance ou n'importe quel prix Goncourt.
Est-ce qu'il existe une photographie de vous en train de lire à laquelle vous penseriez là comme ça?
Non, mais je me rappelle très bien d'un Polaroid de ma fille Louise quand elle avait 4 ans et qu'elle lisait l'idéologie allemande de Karl Marx, mais
à l'envers.
Voilà.
Est-ce qu'il y a un livre qui vous attend, où vous seriez comme ça fait secrètement la promesse de le lire un jour?
L'homme sans qualité.
Et pourquoi Musil, bon sang, c'est pas possible. C'est pas possible que Musil laisse tant de gens sur le pas de la route.
Parce que Joyce, j'ai abandonné. Joyce, je veux dire, pour ce qui est vraiment du livre difficile, enfin, je parle même pas de Finnegan's Wake, ça j'ai abandonné, je m'y suis repris à plein de fois, ça me fascine, je trouve ça extraordinaire, mais j'entre pas réellement. L'homme sans qualité, si, ça j'entre, les titres de chapitres me font rêver, puis sont comme ça sur ce fil du rasoir entre l'essai et le roman, ça c'est vraiment mon truc, donc... Et puis en même temps, je suis jamais arrivé au bout. Mais ça, à chaque fois que j'y suis allé, j'ai aimé. Mais je suis jamais arrivé au bout, je sais pas pourquoi.
Bon. On va aller vers votre livre à vous.
Oui, oui,
les
oui.
Chaînes sans fin.
Ça, je suis pas non plus arrivé au bout, mais...
Mais presque. On va rejoindre ce livre après ça.
Je suis le percolateur, l'amorce, la détente, la vis plate qui casse à la moitié du sillon. Je suis le retour de la lame, le tracé du cordeau, la parole au jugement des hommes. Le corps en usine, en entrepôt qui pense, le délai des émotions, l'image dédoublée. La réinjection du signal sur la corde, une déformation de l'espace. Je suis la butée dans la rotative, le point qui marque l'arrêt pour accomplir la mesure. Si le corps s'intègre aux décibels à la visière plexi, tes pensées d'huile et d'essence nettoient les impuretés. Donc nettoie les filtres, la langue noire des outils qui pensent. Nettoie tes mains, ton visage, la sciure des herbes qui constellent ta peau. Écorchures, cicatrices, éraflures, plaies, creux, hématomes, crevasses, coupures, échardes, épines bleues, marques, pincements, coups, brûlures, trous, cratères, la géographie quotidienne du corps ouvrier qui pense. Ouvrier qui pense. Tiens la main serrée, rigide sur le manche, le geste répété, le membre, machine, marteau, clou, pointe torse, circulaire, égoïne. La tuile est un rasoir selon comment tu la prends, où tu la lances. C'est la prière, le mythe, l'existence révélée par la pioche et la bonne souffrance. Le soir je dors, les membres allongés de tout leur poids dans le coton de ma tête vide. Les corps sombres, chaque nuit lestés par l'habitude, burin, roc, éclat et projection d'espace, copeaux du réel, grains de ciment qui parcourent les poches et les replis de veste. J'affûte, chaîne, lame, pointerolles et ciseaux, ma protection et la répétition du signe, le saignement des doigts, la résurrection, un carter pour protéger les rimes, la colère masquée de fatigue, la limite où le geste se fige lorsque la colonne ploie, énergie utile, le flux tendu des tâches, ouvrir les espaces contagieux, la réalisation conforme, la livraison du chantier, le devis des âmes, le travail pour le corps, nettoie tes mains.
France Culture.
Dalle.
Le Book Club.
J'ai la dalle.
Marie Richeux.
La trépigneuse est un des appareils ayant jalonné la mécanisation des tâches agricoles au cours du 19e siècle. Elle doit son petit surnom à l'effet visuel qu'elle produit. Un cheval posté sur ce qu'on appelle pas encore un tapis roulant trépigne. Il marche mais ne se déplace pas, il fait se mouvoir. Une chenille de planchette dont la rotation entraîne via poulies et engrenages un tambour latéral, par exemple, relié à une batteuse à grains. C'est presque le début de votre histoire illustrée du tapis roulant, Yves Pagès, une histoire qui se méfie de toute façon des débuts trop clairs et trop abrupts et préfère aux figures d'inventeurs solitaires un processus plus collectif, plus historique. Partant d'une vision, vous nous direz laquelle, votre livre suit, machine après machine, ce que les mécanismes de mouvement perpétuel disent de notre rapport au travail, bien entendu, à la production, au déplacement, mais aussi à l'existence, puisque le livre convoque bien sûr le motif de Sisyphe. Les chaînes sans fin, apparues aux éditions Zone. On continue d'en parler avec vous, Yves Pagès. Alors, je parle d'une vision, parce que vous ouvrez le livre avec cette vision. C'est une vision qui est annonciatrice, elle imprime votre rétine et elle vous met, d'une certaine manière, au travail, en fait. Elle est quoi ? C'est quoi, cette vision ?
Cette vision, j'ai commencé, en fait, parce que ce que j'ignorais le plus, puisque c'est vraiment un chaînon totalement manquant de l'histoire des techniques agricoles. J'avais jamais entendu parler de cette chose-là. Et en effet, je suis tombé il y a quelques années, mais j'avais oublié, et je m'en suis resservi ensuite, sur cette image de cheval, sur cette chenille de planchette. Vous l'avez très bien écrit.
C'est vous qui l'avez écrit.
Ah non, je crois pas. Non, ça, c'est une expression de vous.
Ah bon?
C'est très bien. Et voilà, sur un plan incliné, et en plus, qui s'appelait au départ, avant de s'appeler Trépigneuse, qui s'appelait Manège à tablier sans fin. Mm. Donc, je dis au début du livre, on dirait un vers de Mallarmé, c'est incroyable. En fait, c'est un mystère pour moi, et qui ne s'éclaire qu'à moitié en voyant les imageries, parce que tout d'un coup, qu'est-ce que on a l'impression que c'est la rencontre inopinée d'un parapluie sur une table de dissection, comme disait l'autre Hamon. Enfin, on a l'impression que c'est une métaphore folle, enfin, de... Ça n'a pas de sens. C'est cul par-dessus tête. Qu'est-ce que fait ce cheval sur cette charrette penchée ?
Exactement. De toute façon, comme je le disais au début, ne serait-ce que énoncer cette idée-là, c'est-à-dire avancer en faisant du surplace, ça pourrait paraître de toute façon une idée folle. Et ce qui est intéressant,
c'est une idée folle.
Et vous montrez en quoi c'est fou et en quoi elle a régi toute une partie de la mécanique. Mais je parlais d'une autre vision, Yves Pagès. Je parlais de vous sortant d'un métro faisant se superposer deux endroits dans une vitrine, on va dire.
Deux sièges sociaux l'un sur l'autre, c'est tout près de la place de la République, c'est l'avenue de la République, et il y a vraiment un fitness park au premier étage et une boutique d'obsèques au rez-de-chaussée, et j'ai essayé de la prendre en photo plein de fois, et c'est vrai que il y a des arbres devant qui gênent, pour qu'on comprenne vraiment cette situation avec les urnes funéraires dans la vitrine ou les pierres tombales. Et puis tout d'un coup, au-dessus, on voit des gens, soit sur des vélos d'appartement, soit sur des tapis de course, une baie vitrée plus ou moins embuée selon les saisons. Et tout d'un coup, m'est venue cette idée qui aurait pu être l'idée d'un roman, en fait, et c'est devenu un essai. C'était l'idée que finalement, ça résout le problème. Y a-t-il un au-delà ? Oui, il y a un au-delà, c'est le fitness park. Et on y voit donc
des
coureurs stationnaires, et ça pose une question qui est une des questions fondamentales du livre, c'est-à-dire est-ce que c'est la damnation ou est-ce que c'est le bien-être absolu, quoi ? Et ben c'est un peu des deux.
C'est un peu des dreux, mais pendant très longtemps, c'est quand même la damnation. Et je voudrais qu'on aille dans l'ordre que vous avez choisi, parce que c'est aussi cette idée de l'ordre et de l'agencement des connaissances et de vos recherches, Yves Pagès. C'est aussi un des motifs du livre. C'est comment est-ce que, dans ce mouvement perpétuel, on peut décider d'être un peu moins, lisse et prévisible qu'un tapis roulant, et vous organisez les choses de cette manière-là. Il y a beaucoup d'animaux au début, beaucoup de chevaux, beaucoup de chiens. C'est marrant, tout à l'heure, vous faisiez mention de l'enfance de votre père à la ferme, mais on commence vraiment par le travail animal, et comment est-ce qu'on a voulu mécaniser ce travail-là ? Est-ce qu'on donne quelques exemples ? Comment on s'en sort sans faire une liste comme ça trop longue
Après les chevaux sur la trépigneuse, ensuite c'est les chiens qu'on a mis sur des mini trépigneuses, alors pour barater le beurre, pour etc. Alors là aussi, ça paraît quasiment, on a l'impression d'invention insolite et délirante. Pas du tout. Les chaudières à vapeur avaient déjà été inventées depuis 80 ans. Mais, contrairement au storytelling progressiste, non. C'est pas dans l'ordre, c'est pas une invention qui se substitue à une autre en faisant table rase de la précédente. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et en effet, ce qui pourrait apparaître comme régressif, c'est-à-dire ces animaux, qu'on met sur des plans inclinés, en fait, c'est pas du tout. C'est une invention complètement extraordinaire et qui fait rupture avec un millénaire d'histoire ou plusieurs même millénaires qui sont les animaux de trait, les ânes avant les chevaux, les bœufs qui tirent et qui se font du mal et dont on essaye de perfectionner les harnais, les joues, et tout d'un coup, on le libère. on le libère cet animal et on va finalement soutirer autrement sa puissance mécanique en le faisant marcher sur place. Alors apparemment, ça paraît être quand même en effet d'une émancipation. Ils disent maintenant il est sans entrave, le cheval. Et pas du tout.
Parce qu'en fait, peut quand même pas aller bien loin.
Non, puis surtout, les physiologistes s'aperçoivent extrêmement vite qu'en fait, ce pas bridé, piétinant, etc., est exténuant et d'une certaine manière est encore plus pénible que les animaux de trait qu'il y avait avant. Mais c'est vrai que le 19e siècle, j'ai découvert ça en particulier chez un spécialiste là qui sort un livre en même temps à la découverte, François Jarry.
Oui, j'allais en parler, qui s'appelle Le moteur animal, oui.
Voilà, mais François Jarry a fait un travail depuis des années extraordinaires, montrant que le 19e siècle, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est l'âge d'or, si on peut appeler ça comme ça, c'est plutôt l'âge de plomb, de l'utilisation, de l'exploitation de la force de travail animal. Donc c'est que des paradoxes. Alors que la chaudière à vapeur est inventée à la fin du 18e, alors qu'est-ce qui se passe? Ben non, c'est pas comme on croit, c'est pas comme on nous a raconté. Le storytelling progressiste est mensonger à bien des égards par omission, par comme ça une feel good story. C'est une feel good story qui n'existe pas. En
fait. Préciser votre pensée, Yves Pagès, l'idée que le progrès ce soit comme ça, que un en avant avec des étapes, qui soit bien claires et qui soit d'ailleurs souvent individuelles et d'ailleurs souvent masculines. C'est aussi pour ça que votre livre, il cherche aussi une forme qui va aller contre cette idée-là. Merci. Si on devait dire un petit mot de cette forme-là, qu'est-ce qu'on en dirait, Yves Pagès, qui est presque en elle-même, cette forme, un process de réflexion qui serait anti-vision d'un progrès linéaire, quoi.
Absolument. C'est-à-dire que pour écrire ce livre, c'est vrai qu'il est évident que je me suis servi de quelque chose que je sais faire par ailleurs, que j'avais déjà utilisé dans mon précédent bouquin sur les statistiques, mais que j'ai déjà utilisé dans des recueils de textes courts, Petite nature morte au travail, etc. C'est-à-dire une écriture fragmentaire où on fait confiance au lecteur pour faire les sutures, les associations d'idées, voilà, tout seul. Hein. Donc, j'ai décidé, finalement, je rentre par la trépigneuse, puis après, je parle des hippodramas, c'est-à-dire du cheval sur tapis roulant dans le théâtre à la fin du 19e siècle. Bah, chacun va comprendre, petit à petit. Alors, ce qui se passe entre les deux, c'est que là, au théâtre, on escamote la moitié du système. Donc, on a l'impression, c'est enchanteur, parce que on ne comprend pas comment ça marche. Ça devient miraculeux. Et après, on va parler de l'escalator. Ah, bah oui. Alors moi, j'ai pas dit que les gens qui ont inventé Otis et tout ça, qui ont inventé l'escalator après l'ascenseur, je ne dis pas qu'ils ont recopié leur dessin sur une trépigneuse. Je dis qu'il y a un rapport. Je dis que c'est au même moment. Je dis simplement, mais regardez, ça va de soi. Et qu'il y a le théâtre en même temps qui cache, qui escamote une partie du système. Et c'est ça l'escalator. L'escalator, c'est l'hippodrama plus la trépigneuse. Je ne suis pas en train de dire que ce sont forcément des influences directes. Je suis en train de dire que quand on fait tomber les cloisons de l'histoire des techniques et où les experts du technique agricole, les experts des techniques commerciales, les experts des techniques industrielles, les experts des techniques sportives, etc., qui ne se parlent pas, qui ont des œillères pire que les chevaux et qui regardent pas à côté, ben ils voient pas que tout ça c'est exactement dans la même décennie à la fin du 19e. Donc forcément que simplement moi en accolant les séquences où j'en parle les unes à côté des autres, je reconstitue une sorte de panorama en pointillé où les choses s'éclairent les unes les autres.
Est-ce que c'est comme ça que vous avez travaillé? Est-ce que le livre avançait de cette manière-là?
Absolument. C'est-à-dire que moi, j'avais des points d'enchaînement auxquels j'avais pensé depuis longtemps.
C'est le cas de le dire. Hein? Des points d'enchaînement.
Ouais, très fort. Et donc par exemple, c'était l'introduction du convoyeur industriel fordien dans l'espace de la consommation jusqu'au tapis de caisse. Ça, je sais que je voulais faire quelque chose parce que moi, ça fait 20 ans que quand je suis dans un supermarché, je me dis, je suis...
En gros, il y a un truc commun entre le travail à la chaîne de l'ouvrier
fordien, en fait. J'arrive
et la caissière.
Je contrôle la caissière, je suis le timekeeper de la caissière et en même temps, je crée le flux qui lui donne sa tendinite, là. Et ensuite, c'est elle qui devient le timekeeper de moi rangeant les affaires. Donc en fait, les rôles s'échangent et dans le supermarché, on est dans des segments de rôles d'usine.
Donc ça, vous vouliez y venir.
Ça je voulais y venir. Mais par exemple, pour aller de là à là, quand il a fallu que je m'arrête et qu'à un moment donné, je cherche comment on est passé de l'un à l'autre? Ben, on s'aperçoit que dans les self-grocery américaines, ça s'est pas trouvé tout de suite,
quoi,
le tapis
quoi,
de caisse. C'était des espèces d'embryons de supermarchés, mais très, le self, c'est le self-service. C'était ça, la révolution
seul,
américaine. Et ben, au départ, ils ont pensé qu'on appuyait sur des petits boutons, ça donnerait des fiches cartonnées, on arriverait à la caisse et il y aurait un convoyeur qui suivrait le long et qui donnerait les produits. Donc ça, là, c'était vraiment la reproduction du convoyeur industriel fordien. Et puis, ils ont abandonné parce qu'ils se sont dit, ils ont abandonné quand? Ben, quand on a inventé les premiers caddies, avant que la marque caddie existe. Et quand on a inventé le caddie, c'est-à-dire quand on a transformé le consommateur en magasinier, bah, il n'y avait plus besoin du convoyeur industriel pour ça. Alors, on a essayé d'inventer des petits ascenseurs à la caisse. Et puis, à un moment donné, il y a eu cette idée, ah, ben, on va le mettre là.
Le tapis roulant de la caisse.
Le tapis roulant de la caisse, le convoyeur de la caisse. Et voilà. Et ça, en fait, ça va mettre 50 ans. Pourtant, on va se dire, là, je vous l'ai raconté en 5 minutes, on se dit, ben, ça s'invente tout seul. Non! Parce qu'en fait, il y a des gens qui l'ont inventé presque dans les années 30, et puis ça a fait faillite, parce qu'un inventeur, d'abord, il est jamais tout seul, il y a déjà plein de gens qui inventent des choses en même temps, puis il faut qu'ils connaissent un commercial qui va commercialiser la marque, et ça marche ou ça marche pas dans telle époque. Et puis, les guerres, en général, elles augmentent l'économie de guerre, de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale, elles augmentent, elles intensifient. Alors, le taylorisme et le fordisme ont bénéficié d'une certaine manière de la Première Guerre mondiale pour et de la Deuxième Guerre mondiale pour fabriquer de la machinerie militaire. Mais ensuite, c'est pas dans ces moments-là que des choses liées au confort, à la consommation, etc., font des bons en avant très grands. C'est dans d'autres périodes économiques. Donc moi, ça m'a demandé, bah, tout d'un coup, j'ai arrêté l'écriture puis pour rechercher. Voilà, c'est-à-dire qu'en cours de livre, alors que j'avais quand même pas mal de documentation au départ, en cours de livre, j'allais, tout d'un coup, je découvrais telle chose, puis je me disais, ah, ben alors, ça, je vais chercher, tiens, je vais chercher le lien.
Oui, puis il est beaucoup question de lien d'ailleurs. Comment les choses sont en lien et à la fois pour avoir une pensée politique de ces liens-là, Yves Pagès. Donc il y a une matière de documentation, je disais, elle est rendue très généreusement aux lectrices et aux lecteurs. Et puis il y a une matière qui est aussi parfois une matière de documentation, mais qui apparaît sous forme de textes littéraires. Mmh. Et d'illustrations, de cinéma, enfin, votre rapport à l'art, d'une certaine manière, n'est pas absent de cet essai-là. On va écouter un extrait de la toute fin du 19e.
Nous arrivâmes bientôt devant un grand bâtiment qui s'étendait sur deux ou trois pâtés de maisons. Et tout autour, il y avait des milliers de treadmills, sur lesquels piétinaient des milliers et des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants à l'air misérable. Ils piétinaient, sans jamais s'arrêter pour se reposer, sous le fouet de conducteurs d'esclaves qui n'épargnaient ni la jeunesse ni l'âge quand ça traînait. Qu'ont-ils donc fait ? Demandai-je à Satan. Rien du tout. Ils sont juste nés pauvres. Et le perfectionnement des machines et autres formidables inventions les ont privés de leur travail. Comme cet état d'oisiveté les rendait difficiles à contrôler, un homme très sage, un rejeton du vieux Carnegie, le roi de l'acier au XIXe siècle, a conçu un plan pour se passer de la vapeur et des moteurs électriques dans les fabriques industrielles et faire fonctionner toutes les machines par la seule puissance du treadmill humain.
Le 10 octobre 1896, l'hebdomadaire socialiste The Coming Nation, créé dans le Kansas, publiait l'extrait d'une fiction utopique qui s'appelait A Dead Man's Dream. Et alors vous précisez, Yves Pagès, dans votre livre, juste après la citation, en note de bas de page, que la nouvelle est signée par un mystérieux A Man Without a Soul, un homme sans âme. Alors en effet, il y a aussi toute cette littérature-là, qu'on pourrait dire de science-fiction, une littérature d'anticipation, ici donc fin du 19e, qui donne des images comme ça d'un espèce de géant tapis roulant sur lequel on mettrait les pauvres, les esclaves ou les réticents à l'ordre aussi d'une certaine manière.
Moi, là, c'était vraiment, ça fait partie des 5-6 bonheurs du livre, c'est quand je suis tombé via une image de caricature, je suis tombé sur ce Coming Nation, que je connaissais pas, un journal socialiste de la fin 19e américain. Et là, je suis tombé à genoux, parce que cette dystopie, bon, même si c'est un anachronisme de parler de dystopie à cette époque-là, mais c'est une dystopie, elle problématise génialement les choses. C'est-à-dire, est-ce que le machiniste va tout résoudre? Ah ben non, alors elle enlève la pénibilité du travail, mais elle enlève aussi l'emploi. Mais alors, on va le faire de façon punitive, comme ça s'est fait pendant 70 ans dans les prisons anglaises, où il y avait un système de roues à aubes qui a fait partie aussi de l'imaginaire du treadmill anglais. Et il y a une problématisation qui est complètement géniale de ce point de vue-là. Et c'est vrai que dans le livre, après, on retrouve trace dans Nous autres de Zamiatine, dans toutes les dystopies qui vont être très importantes, soit dans le monde soviétique, soit aussi les avant-gardes qui, par contre, littéraires, vont adorer le machinisme et en faire l'éloge de la vitesse. Et puis, on va tomber bien avant Orwell. Et de mon point de vue, c'est vraiment, moi, un livre qui, alors, pour le coup, m'a marqué dans ma lecture de jeunesse. C'est Brave New World, Le meilleur des mondes, de Huxley, où là, en fait, il n'y a pas forcément de tapis roulant, mais on a complètement oublié que Le meilleur des mondes, de Huxley, c'est un monde d'industrie du clonage, hein, d'enchaînement comme ça du clonage, et qui s'appelle, c'est la dynastie Ford qui domine le monde. Et avec des gens qui sont à l'intérieur, qui s'appellent Lénina, tout ça. En fait, c'est une fusion, une synthèse qui a vraiment eu lieu dans la vraie vie, hein, qui est la synthèse autour de la rationalisation scientifique du travail et du convoyeur industriel, qui a totalement réuni, hélas, les soviétiques, le capitalisme d'État soviétique et le capitalisme libéral états-unien. Et Huxley en a vraiment la vision et il pose la question. En fait, le problème, c'est réduire les temps morts. Réduire les temps morts, qui était l'obsession de Ford, et réduire les temps morts, ça veut dire aussi les êtres qui vivent dans ce meilleur des mondes, ils n'ont plus de pénibilité, ils prennent de soma, la soma qui est une drogue, et puis la nuit, au lieu de perdre leur temps à l'école, hop, ils apprennent par l'hypnopédie, il y a des micros sous leurs oreillers, ils apprennent les choses, et en fait voilà, c'est une inhumanité absolue. Par le fait même qu'il n'y a plus aucune autonomie individuelle et qu'on a réduit tous les temps morts et ils appartiennent complètement dans un corps social, en tout cas pour ceux qui sont hors l'élite, même ceux de l'élite sont comme ça. Et voilà, et donc ça par exemple, lire dans le cinéma, voir dans le cinéma ou dans les œuvres, c'est là où on voit la critique de ce machinisme qui avait du mal à s'exprimer dans la réalité.
Vous parlez du temps, mais justement, un documentaire qui s'appelle « Avec le sang des autres », qui est un documentaire que vous citez, Yves Pagès, réalisé par Bruno Muel en 1974, un ouvrier prend la parole, parle de ce travail-là et parle du temps.
Ah ben la chaîne, ce coup-là, ils m'ont supprimé les accoudoirs quand même, ça fait un an. Autrement, les accoudoirs, mais je suis parti pendant 8 ans de temps. Je commençais par les connaître. Une fois, j'ai voulu respecter. Mon poste était assez difficile. Alors, pour me faire plaisir, au lieu de les mettre à droite, ils m'ont fait pour les mettre à gauche. Et si un gars, par exemple, fait une suggestion pour, par exemple, supprimer une machine, par exemple, de mettre les deux mêmes écrous avec une seule machine, donc le gars, on gagne du temps. On gagne du temps. On gagne du temps pas longtemps, oui. On gagne du temps pendant les 15 jours de temps.
Ouais. Et après, ils t'en mettent à troisième.
Et puis le lendemain, vous avez un chronomètre, pouf, il vous fout un chronomètre ou même 101 des fois, parce que les temps, bien souvent, ils doivent être, je crois qu'ils ont été, calculés à l'intérieur. Ils sont calculés, on dirait presque en ce moment que ça se passe, c'est un genre de...
Il y a un temps théorique.
Un genre de cinéma qui te font, les chronomètres qui viennent, d'accord. Ils prennent le temps, tout ça, mais... Le temps, il est calculé d'avance déjà.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un petit peu de la bande originale, donc, de ces temps modernes de Chaplin, juste après la voix de cet homme ouvrier s'exprimant dans « Avec le sang des autres » dans un film documentaire de 1974 qui répète les temps calculés, les temps chronométrés. Ils nous prennent le temps, ils nous prennent les temps dans les deux sens du terme. Il faut voilà, avancer dans votre livre, mais finalement, on la voit venir, cette grande figure quand même de l'ouvrier, Yves Pagès, elle est là dans le texte, elle est presque, on la pressent dès le début quand on voit l'histoire du tapis roulant. Elle va arriver et elle arrive sous plein de formes différentes quand elle arrive.
Bah, avec le sang des autres, moi, pareil, bon, ça, c'est un réalisateur du groupe Medvedkin qui faisait du cinéma d'agite propre. Bon, c'est vraiment l'une des grandes merveilles du cinéma documentaire engagé des années 70. C'est vraiment une merveille, ce film.
Donc, vous dites qu'il reprend le titre d'un autre documentaire. C'est le sang des bêtes, on est d'accord.
Bah, le sang des bêtes de Franju. Et c'est là où, tout d'un coup, pour moi, c'est là où j'ai vraiment pris plaisir à écrire ce livre. C'est-à-dire, avec le sang des autres que j'avais déjà vu, je me dis, ah, il faut que je le revoie, etc. Puis, le sang des bêtes, bah oui. Et or,
peut-être
le Fordisme, c'est inventé.
Ce que c'est que le
sang des bêtes, c'est sur les abattoirs de la Porte de Vanves ou de la Villette, je ne sais plus. La Villette, plutôt. Et ben voilà. Et or, le Fordisme, c'est soi-disant inventé d'après Henry Ford, c'est en visitant les abattoirs de Chicago. Donc, moi, c'est ces choses-là qui font écho. Pour moi, c'est des échos poétiques. Mais en fait, qui font vraiment sens. Et tout d'un coup, le moment où les bêtes humaines, c'est-à-dire les ouvriers, qui sont des bêtes humaines, c'est eux qui ont pris le relais de l'exploitation de la force de travail humaine. Et ça s'est fait dans cet endroit qui s'appelait une ligne de désassemblage, disassembly line, ou de dépeçage, qui était les abattoirs. Et c'est là où tout d'un coup s'est inventé la ligne de montage. Mais c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est vraiment dans les mots qui gardent la mémoire de tout ça. Et tout d'un coup, avec le sang des autres, bah évidemment qu'il y a une référence à cette jonction-là. Et ce que je veux dire, c'est quand on regarde ce film-là, alors Louis Malle a aussi fait un documentaire magnifique, sans voix off, sur le travail à la chaîne. Il y a eu quand même des choses comme ça. Louis Malle est un grand génie du cinéma documentaire, pas seulement un grand cinéaste de fiction. Et ben, l'air de rien, on se rend compte que il y a des plans sur la chaîne et ils sont montés à un moment donné dans le film avec les ouvriers qui vont au supermarché. Et là, il y a les mêmes plans sur la ligne de caissière et la répétitivité des gestes de caissière.
Mais une fois
et
qu'on
là, tout d'un coup, on se dit, ben voilà, c'est vraiment un film qui a tout compris puisqu'il nous montre visuellement la société de production et la société de consommation qui sont exactement fordisés de la même manière.
Mais comme un quoi, du coup? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, Yves Pagès, une fois qu'on a repéré ces motifs, une fois qu'on a considéré qu'ils étaient poétiques, tous ces échos, que les mots gardaient trace de l'histoire de l'invention, que le cinéma lui-même gardait trace par les titres des films, on dit quoi? Que c'est un continuum? Qu'est-ce qu'on fait? On écrit de l'histoire? À quoi ça sert, tout ça? À quoi ça vous sert
de
repérer ces associations et la façon dont on passe d'un tapis roulant à l'usine au tapis roulant de la caissière ou du caissier?
Il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire, le continuum par association d'idées poétiques, à mon avis, rend beaucoup plus compte de la sinuosité de l'inventivité collective humaine. Ça, c'est clair. Et que là-dedans, il y a des hasards, il y a des pannes, il y a des apories, il y a des retours qui peuvent ressembler à des régressions et qui n'en sont pas. Voilà. Donc, je pense que le modèle d'analogie poétique, il rend beaucoup plus compte de ce qu'a été l'intelligence collective qui a produit le meilleur et le pire. Ensuite, de vraiment prendre conscience que la société de consommation s'est fait, est traversé très profondément de part en part par un modèle de productivité industrielle, et avec le sang des autres, est un film critique. Hein, donc c'est le moment de la destruction du modèle fordien, c'est l'après 68 et 70, à bas les cadences infernales, à bas le chronomètre, à bas les pointeuses, et c'est pas un mouvement estudiantin 68, hein, ça c'est il faut vraiment être franco-français et vivre dans le 5e arrondissement pour croire que ça s'est passé uniquement à la Sorbonne. Mais voilà, donc ça aussi dit quelque chose d'une force critique qui depuis 60, les premières grèves contre le chronomètre ont eu lieu à Renault en 1913. Les syndicats ne les ont pas relayées par la suite et les soviétiques adoubant le modèle de la rationalisation du travail, ça n'a plus été possible. Eh ben, 60 ans plus tard, ça pète. Et ça pète aussi dans ce qu'on a appelé la critique artiste qui parfois exprime mieux les choses que les courroies de transmission, on peut les appeler comme ça, syndicales et autres, qui, elles, sont très souvent prisonnières de leur dogme ou elles sont inféodées au stalinisme, etc. Mais ce qui est beau, c'est que tout d'un coup, dans ces œuvres d'art ou de réflexion critique qu'on trouve dans la littérature et le cinéma, s'exprime un non-dit d'une colère sociale.
Vous parlez de la critique artistique, par exemple, vous citez plusieurs films, là on a entendu Les temps modernes de Charlie Chaplin, mais il y a aussi un autre film qui s'appelle L'an 01, un film de Jacques Doyon et de GB. Voilà, vous dites, ça fait presque plus sentir une sorte de critique de ce monde-là, on en écoute un extrait.
Et pourquoi on le ferait pas plus souvent? On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire 10 fois par jour, 20 fois par jour.
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Ben allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Moi aussi, je suis d'accord, mais quand?
Bon, ben c'est simple, il n'y a qu'à fixer une date.
Chiche? Quel jour?
Oh, n'importe. Mardi?
Ouais, mais mardi, quelle heure?
Pourquoi pas 15h?
Mardi 15h!
On arrête tout!
Allez, on arrête tout, mardi 15h! On arrête tout!
Bon voilà, c'est un petit extrait, c'est juste pour le plaisir de l'an 01 de Doyon et GB. Pourquoi on n'arrêterait pas tout et pourquoi pas mardi et pourquoi pas 15h, Yves Pagès? Dans Les chaînes sans fin, votre livre paru aux éditions Zone, à un moment donné, il est question de comment elles s'arrêtent ces chaînes-là et comment est-ce qu'on peut rompre un mouvement perpétuel, ce fameux motif sisyphien de nos servitudes volontaires qui est au cœur de votre travail. Ça passe notamment par la convocation de certaines œuvres d'art.
Absolument.
Qui le propose, qui propose
absolument.
D'arrêter.
Absolument. Moi, j'ai déniché le premier film pour une raison très simple, c'est que c'était le film préféré de mon père. Voilà, qui est né en 19, mon père, qui aurait pu être mon grand-père, donc il avait des goûts de sa génération. C'était À nous la liberté de René Clair, qui a beaucoup influencé Chaplin, et que Chaplin a beaucoup influencé René Clair. Enfin, ils étaient en admiration mutuelle. Et dans À nous la liberté, je raconte pas toute l'histoire parce que ça prendrait trop de temps, mais deux évadés de prison, l'un va devenir patron d'une usine à la chaîne de phonographes, et l'autre va devenir ouvrier un peu à la Chaplin dedans, et tout d'un coup, ils vont faire une alliance à la fin du film, qui dit deux choses extraordinaire. Leur alliance, c'est on se barre, on va redevenir des chemineux sur la route, là, des trimardeurs, fait chier le travail. Donc une fin libertaire qui, évidemment, a été détestée par le Parti communiste, le film a été interdit en URSS, etc. Mais l'autre tendance...
Ce que propose aussi un peu l'an zéro, hein, c'est on arrête.
Absolument, mais parce que finalement, ces critiques artistes, elles peuvent permettre de dire des non-dits, parce que ce À nous la liberté a été vu par des millions de personnes, a été adoré par les gens. Et ça a été un succès extrêmement populaire. Et l'autre élément dans ce film, c'était le patron est arrivé à trouver un ingénieur qui fait fabriquer les choses toutes seules. Et donc le dernier plan du film, imaginez bien pourquoi il est ressorti en 36, et ben c'est qu'en fait, il tape le carton au milieu des phonographes qui se fabriquent tout seuls, et puis ensuite ils vont à la pêche, et la dernière truc, c'est le bal populaire. Et en fait, ça bosse tout seul, et on a supprimé le labeur humain. Mais ça, c'est en 31, et c'est un succès énorme. Et les surréalistes, encore très inféodés au stalinisme, eh ben, pour se faire bien voir de l'URSS, ils ont dit que c'était un film contre-révolutionnaire. Non, pas du tout. C'était déjà l'an 01. Alors... Et si on arrêtait tout? Et voilà, et donc dans les années 70, aussi bien en Italie qu'en France, etc., il y a eu cette idée qui s'est accompagnée de beaucoup de bouquins d'écologie politique qui, maintenant, j'ai l'impression, 50 ans après, mais qu'on ressoulève, qu'on enfonce des portes ouvertes qui ont déjà été toutes soulevées dans les années 70. Tous les éléments qui étaient soulevés dans les années 70.
D'accord, Yves Pagès, en même temps, notre conversation et votre livre commencent par l'image inverse, à savoir des humains enfermés dans un immeuble en verre plein de buées qui courent sur des tapis roulants. On n'est pas complètement en train d'arrêter le travail, aller pêcher et au bal populaire.
Ben non, puisque entre les deux, quand il y a eu cette espèce d'énorme rupture dans les années 70, mais dans tous les pays du monde, il y a eu une remise en cause du productivisme. Il y a eu une remise en cause de l'accélération. Il y a eu une remise en cause qui a dit il faut se réapproprier nos temps morts, notre autonomie, voilà, avec des maladresses, avec des trucs qu'on peut trouver complètement ringards. C'est pas la question. C'est une remise en cause qui a pris plein de figures différentes. Il y a eu des désertions très 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 violentes. Pas en Italie, on nous parle toujours terroristes, plus tard, mais non, c'est des milliers de jeunes ouvriers de Turin, de la Fiat, qui se sont barrés parce qu'ils ont dit je veux plus participer à ce monde-là, et qui est très bien montré d'ailleurs dans La classe ouvrière va au paradis d'Elio Petri, qui est un film sublime et qui a quand même eu la Palme d'Or ex aequo à l'époque. Donc tout ça, il s'est passé un truc énorme. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, je suis pas très très dogmatique, je vais pas dire le capital, je sais pas quoi. La société libérale capitalistique a fait une contre-offensive et s'est approprié ce désir de changer le travail, se l'est approprié pour faire trimer les gens autrement. Et puis maintenant, ça
y
sera
compris dans les temps morts. Y compris dans les
et
temps morts.
Et en bouffant nos temps morts avec les nouvelles chaînes sans fin qui sont Instagram et tous ces trucs-là auxquels je participe parce que on ne peut pas critiquer les choses sans être traversé par ses propres contradictions.
Oui, évidemment. Mais vous allez voir, regardez, le Book Club est une communauté qui s'exprime aussi sur Instagram d'ailleurs. Je voudrais qu'on écoute la voix et la question de Valentin, lecteur et auditeur qui a lu votre livre.
Bonjour le Book Club, bonjour Yves Pagès. Un grand merci pour cette lecture que j'ai vraiment appréciée. J'ai trouvé ça assez fascinant de découvrir tous ces dispositifs construits sur le principe du tapis roulant, mais aussi et surtout d'analyser tous les discours qui lui sont associés. Ce que j'ai aussi trouvé frappant dans votre livre, c'est l'ambivalence du tapis roulant. Quand c'est un tapis de course, il permet de faire des efforts sans se déplacer. Quand c'est un escalator, il permet de se déplacer sans faire d'efforts. Pour moi, cette ambivalence fait que le tapis roulant, quelle que soit sa forme, a encore de beaux jours devant lui. Alors, après avoir fait ce bel historique, comment voyez-vous l'avenir du tapis roulant? Est-il possible de ralentir son expansion aujourd'hui, dans le monde de la production comme de la consommation?
Un grand merci à Valentin pour sa question, Yves Pagès.
Trop fort.
Trop fort?
Non, mais.
Ambivalence et avenir.
Ah ben, ambivalence, c'est impeccable. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Hein. J'ai commencé comme ça. C'est la damnation bienheureuse. Donc, tout ça est très ambivalent. Évidemment, je n'ai rien contre l'escalator. Je dis pas que c'est inutile. Bon, en même temps, il y a des sociétés où on s'occupe plus des gens qui ont des handicaps et où vraiment on fait des choses pour la mobilité handicapée. C'est pas tellement l'idée de l'escalator, en fait. Hein. Mais, moi, je crois qu'aujourd'hui, les chaînes sans fin, qui fonctionnent énormément, par exemple, dans tous les systèmes des hangars logistiques, hein, parce qu'on s'est débarrassé du travail à la chaîne pour faire trimer les pauvres à bas prix. Mais globalement, nous, dans ces centres logistiques, ça continue et c'est à moitié robotisé, etc.
Mais, c'est très chronométré.
Mais tout ça, c'est nous pas de temps mort, pas de temps mort. Et donc le pas de temps mort, maintenant, il s'est déplacé sur des chaînes sans fin qu'on dirait plus virtuelles, plus immatérielles, et qui sont en effet les réseaux sociaux. Alors quelqu'un me disait ça l'autre jour.
Ce fameux scrolling, en fait, c'est très proche du tapis roulant.
Comme je suis un vieux boomer, je ne sais même pas ce que ça voulait dire, mais j'ai compris. Et c'est vrai que le geste qu'on fait avec le doigt pour faire passer le fil d'actualité du réseau social sur lequel on est, incontestablement, ressemble
et ça aussi, c'est sans fin.
On fait du tapis roulant sans fin. Et mon fils le premier dira, merde, j'ai niqué mon après-midi parce que j'ai fait que du scrolling toute l'après-midi. Voilà. Et en fait, on s'est fait manger son temps mort qui pourrait être plus contemplatif, plus autre, quoi. Et mais c'est ça les nouveaux tapis.
On entendait Valentin se demander aussi comment est-ce qu'on pouvait contrer, est-ce qu'on pouvait comme ça lui aussi se poser la question de l'arrêt du rythme sans fin, des chaînes sans fin, du tapis roulant. Je vous demande pas de répondre à l'échelle de la société, ce serait trop grand, mais en vous lisant Yves Pagès, je me demandais si on applique ça à l'édition par exemple. Vous qui écrivez des livres, qui publiez des livres, est-ce que il y a une économie, une écologie, une pensée qui serait de ne pas trop alimenter le tapis roulant?
Je pourrais vous reposer la question parce que vous en écrivez aussi des livres.
Donc,
il faut faire les livres les plus urgents qu'on a à faire. Il faut éviter et que chaque écrivain arrive à éviter ses propres livres inutiles, ça serait pas mal. Et de fait, nous chez Vertical, bon, on fait une toute petite onzaine de livres par an, et on n'est pas
avec cette idée-là, ou pas
si malheureux que ça de pas en faire plus en fait. Ah ben oui, parce qu'on s'en occupe mieux. Et que si on en faisait ce qu'on a fait, à un moment donné, on en faisait 18 ou je sais pas quoi. En fait, on s'en occupait mal et on avait des sacrifiés d'office. Et oui, bien sûr qu'il faut ralentir et le temps de travail et désadhérer un peu aux choses et fabriquer moins de choses en y mettant plus de temps et de savoir-faire et de relations de proximité avec les auteurs. Mais c'est évident. Mais tout, sauf que le système éditorial dans l'état actuel fait que les grosses maisons, objectivement, ne peuvent pas ralentir. C'est structurel en fait. Elles peuvent pas ralentir parce que si elles mettent moins de production, comme elles se font payer à 60 jours par les libraires, ben elles vont avoir une année hyper creuse. Et en fait, personne ne veut avoir cette année creuse. Et donc en fait, on continue à faire ce système d'économie de cavalerie,
pareil,
ça s'appelle comme ça, cavalerie, économie de cavalerie. Ça me fait rêver ça.
Un immense merci, j'espère que tout le monde va trouver plein de temps libre et non mort dans sa vie pour lire davantage et pourquoi pas les chaînes sans fin, histoire illustrée du tapis roulant, paru chez Zone. Merci beaucoup Yves Pagès.
Merci grandement aussi.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et ne partez pas, car ici, à 15h50 tous les jours, nous recevons de la visite et tous les mercredis, c'est vous, Lou Quevauvillier, qui arrivez. Bonjour Lou.
Bonjour Marie.
Vous êtes à l'affût des endroits où se croisent les enjeux numériques et les enjeux littéraires. C'est un très joli carrefour et aujourd'hui, vous nous parlez de jeux vidéo et de traduction.
Eh oui, Marie, je vous raconte comment, en jouant à la console, on peut s'initier à l'art de transposer un texte ou un discours d'une langue à une autre, car c'est l'un des projets de Chance of Scénar, le tout nouveau jeu vidéo du studio français indépendant Run Disc. Le principe est le suivant, vous êtes un voyageur, vous devez gravir les étages d'une grande tour dans laquelle vivent différents peuples qui parlent chacun une langue imaginaire. Pour monter au sommet, vous devez résoudre des énigmes en apprenant les rudiments de chacun de ces dialectes que vous allez rencontrer. Et puis, si tout se passe bien, vous allez même pouvoir devenir traducteur et faire dialoguer ces peuples entre eux.
Alors, est-ce que la première énigme qu'on doit résoudre, c'est pas d'abord le titre de ce jeu ?
Si, et je vous donne tout de suite la clé, parce qu'elle permet de connaître le mythe sur lequel les créateurs du jeu se sont appuyés pour penser leur dispositif. En fait, le titre renvoie à la région dans laquelle aurait été érigée la tour de Babel, dans le sud de la Mésopotamie, qui est une région qu'on appelle Sénar en grec ancien. L'épisode de la tour de Babel, je le rappelle, c'est un récit qu'on trouve dans la Genèse, le premier des livres de l'Ancien Testament, et qui raconte le moment où l'humanité aurait perdu sa langue commune en voulant construire une tour pour atteindre le ciel. Une tour comme une échelle entre la terre et l'au-delà. Et le texte raconte que la dissolution de cette tour aurait provoqué la naissance de toutes les langues. Alors ce passage mythologique, biblique, il a inspiré tout un tas de poètes, de peintres, d'artistes de toutes les disciplines, mais il est presque un incontournable dans l'univers du jeu vidéo. On retrouve la tour de Babel dans des grosses productions comme peuvent l'être Super Mario Bros, Final Fantasy ou encore Call of Duty, mais souvent il ne s'agit que d'un élément de décor, que d'une tour à escalader ou à contourner, alors que dans le jeu que je vous présente, le mythe est investi et devient une partie intégrante de ce qu'on appelle le gameplay, c'est-à-dire ce qui désigne à la fois les règles et le plaisir du jeu. On peut donc déjà dire que dans Chance of Scénar, la tour de Babel permet de mettre la question des langues au cœur du jeu jusqu'à la faire devenir l'héroïne principale autour de laquelle le joueur ou la joueuse gravite.
Très bien, très bien. Mais tout à l'heure, vous avez fait une promesse, nous parler de traduction. Comment concrètement le joueur ou la joueuse s'initie à la traduction, Lou ?
Eh bien, qui dit traduire dit déchiffrer, faire des hypothèses, déduire, comparer. Et tous ces mouvements de pensée, il va falloir s'y confronter pour réussir à communiquer avec tous les personnages que l'on va rencontrer. Leurs paroles s'affichent dans des bulles, comme dans des bulles de bande dessinée, et sont composées de glyphes, de logogrammes et de tout autre type de hiéroglyphes. Le jeu fonctionne par palier de difficulté. Donc d'abord, vous devez déduire des mots simples comme « bonjour » ou « ouvrir » et puis petit à petit, vous parvenez à deviner des échantillons de discours plus larges jusqu'à pouvoir réussir à comprendre une blague entre deux gardes, un enfant qui vous hèle ou le sermon d'un prêtre. À chaque étape de la tour traversée, il y a une nouvelle langue à apprendre. Donc il faut à chaque fois réapprendre et découvrir comment le système linguistique rencontré fonctionne.
Génial.
Sachant que le seul point commun de tous ces dialectes, c'est le vocabulaire. Pour le reste, et en ce qui concerne les règles grammaticales ou la construction de la phrase, elle varie d'un étage à l'autre. Et puis, la traduction, c'est pas seulement une espèce de casse-tête mathématique, c'est aussi une affaire de réflexion, d'observation du contexte et de tâtonnement. Et le jeu développe aussi ces aspects-là. Il faut, par exemple, comprendre les relations entre les peuples pour appréhender leur manière de se parler et traduire certains dialogues.
Et qu'est-ce que le format de jeu vidéo, parce qu'on est bien à l'intérieur d'un jeu vidéo, permet finalement... Je fais un geste de manette, je sais même pas si on joue encore avec des manettes aujourd'hui, tellement moi aussi je suis vieille Lou. Donc bon, voilà, à quoi ça sert ce format jeu vidéo ?
Ben surtout de jouer.
Ben voilà.
Et je l'ai pas dit assez, c'est à la fois jouer avec les mots et se divertir. Réussir à traduire, ça veut dire réussir à débloquer des nouveaux décors qui restent invisibles tant qu'on n'arrive pas à avancer dans le jeu. C'est aussi rencontrer des nouveaux personnages qui nous livrent la suite de l'histoire et on a envie de connaître les liens entre tous ces peuples dont on apprend les langues. C'est aussi entendre de nouvelles musiques. Bref, tout ça rend l'exercice de traduction ludique, voire annule même la dimension d'exercice. On pourrait dire que Chance of Scénar, c'est finalement comme un cours d'initiation à la traduction sans voir le temps passer et pourtant, la partie est longue, elle dure entre 10 et 15 heures.
Franchement, que demande le peuple ? C'est merveilleux. Merci beaucoup Lou Quevauvillier. On peut réécouter Lecture numérique sur franceculture.fr. À mardi prochain. Et c'est l'heure du grand jeu des pages musicales. Je rappelle le principe. Vous êtes en train de lire une fois que vous en aurez complètement terminé avec la société de surproduction et le travail, vous repérez l'évocation d'un air musical dans un paragraphe, vous faites une photographie, vous l'envoyez sur le grand tapis roulant d'Instagram via le Book Club de France Culture ou à l'adresse suivante lebookclub@radiofrance.com et tous les jours, nous piochons dans cette réserve de trouvailles. Aujourd'hui, nous devons la trouvaille à Lila. Elle l'a envoyée par Instagram. Elle a choisi un extrait de Le Times, journal de prison, paru en 2013 aux éditions du Chemin de Fer. C'est un livre d'Albertine Sarrazin. C'est un recueil de nouvelles écrites en prison dans lesquelles l'autrice relate sa vie quotidienne et évoque ses compagnes de cellule ainsi que les gardiennes. Un dernier texte écrit après sa libération clôt l'ouvrage. The leaves of brown came tumbling down. Remember. In September, in the rain. Peut-être suis-je le mauvais ouvrier. Croyais être quitte avec un petit travail de dédoublement, mais si je pouvais fournir de l'atrophie, ce serait encore préférable. Merde, je paie, et il faut encore que je me fasse baiser, je la trouve saumâtre. Rêve impossible d'une houle de foule ou de vagues de... Oui, de quelques amis toniques. À la rigueur d'une chambre sans porte qu'on bâtirait et démolirait le jour venu à ma dimension, ma niche, ma tombe joyeuse. Mais non, hélas, il faut faire attention, être au travail. Oh, le travail, j'exècre, je vomis le travail. Non, rien en moi de cette vide nonchalance des fainéants, encore que j'ai là-dessus des théories bien personnelles. Allez bon, adios, j'ai sommeil. Balade de septembre, sans un rythme en moi, cette voix tour à tour, percussion et défaillance, celle du prince des platters. September in the rain. Mais non, une douce sueur m'endort encore. Septembre, mois de la Vierge et mois de moi. Ma mère, vous revient-il encore après 22 années, ce poids plus lourd en vous par les lourds soleils? Je rêve à votre jeunesse d'alors, ma mère, petite sœur. Sous votre robe, sous votre peau, j'avais chaud, et vous me traîniez comme un de ces beaux fruits de fin d'été dont vous eûtes soif. Ah, combien je vous adore d'être resté inconnu. September, that September in the C'était Florent Bujon aujourd'hui à la réalisation Liscombe. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Jeanne Léos, Mathilde Wagman, Oriane Delacroix, Marianne Chassor, Léa Weissgruss et Didier Pinault. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast via l'application Radio France. Et surtout, vous jouez à ce grand jeu magnifique des pages musicales. Comme ça, on écoute des trop beaux textes comme celui d'Albertine Sarrazin. Très bel après-midi sur France Culture.